En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas en parler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. S'il y a bien une chose que tout le monde connaît au sujet de Jules César, c'est qu'avant de finir troué de partout, en plein milieu du Sénat, il avait eu le temps de mettre la tatouille du siècle à Vercingétorix, signant ainsi la conquête des Gaules. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait aussi commencé à faire le coup aux tribus celtes qui habitaient l'île de Bretagne, autrement dit l'Angleterre actuelle. Mais les incursions de Jules n'ont pas débouché sur grand-chose et Britannia reste relativement épargnée par l'expansion de l'Empire romain. Bon, Auguste, Tibère, puis Caligula ne se privent pas de signer une série d'accords commerciaux, diplomatiques, qui en font de fait une des zones d'influence de l'Empire. Mais il faut attendre Claude pour passer à la vitesse supérieure quand il expédie 4 légions pour annexer le sud de l'île. Ceci dit, ce n'est pas Claude, mais Néron qui règne au moment où démarre une vaste rébellion qui lui a valu quelques bonnes migraines, une révolte menée par une femme, Boadice ou Boudica en latin. Tacite raconte que Boadice s'était retrouvée reine des Icènes au lendemain de son mariage avec leur chef, Prasutagus. Plutôt pragmatique, la tribu avait passé un deal assez simple avec Rome, en vous rend allégeance, mais en gros, vous nous laissez gérer nos petites affaires tout seul. En 60, ça se complique un peu, Prasutagus casse sa pipe au moment où ça se tend dans la province. Agacé par une série de révoltes, Rome est en train de pacifier la zone à grands coups de savate dans la tronche. Avant de passer l'arme à gauche, Prasutagus a bien tenté un coup de poker, il a légué son trône à la fois à Néron et à ses deux filles à lui, histoire de s'attirer les bonnes grâces de l'empereur tout en conservant un semblant d'indépendance. Ben c'est loupé, non seulement Rome décide d'annexer le petit royaume, mais quand Boadice, désormais veuve et reine des Icènes, essaie de s'interposer, l'empire réagit tout en finesse. D'après Tacite, on fouette Boadice en place publique, la moitié de sa cour est réduite en esclavage et tant qu'on y est, ses deux petites filles sont torturées et violées sous ses yeux. D'autres se seraient effondrés. Boadice fait un autre choix, la vengeance. Et si le portrait qu'en fait Dion Cassius est exact, la reine devait en jeter un peu sur son char, une lance à la main, un torque de bronze autour du cou. D'après lui, la reine avait aussi une longue chevelure rousse, une voix puissante et un regard du genre polaire. Portrait arrangé ou non, le résultat est le même. Non seulement Boadice peut compter sur son peuple, mais elle fédère autour d'elle d'autres tribus passablement agacées par les méthodes romaines. En quelques semaines, la voilà à la tête d'une armée immense, 100 à 120 000 combattants tout de même, qui se rue sur les cités romaines, le plus souvent mal défendues et peu ou pas fortifiées. Elle commence par la plus grosse ville de la province, aujourd'hui Colchester. Les 200 malheureux soldats de la garnison se font défoncer, la ville crame, et Boadice, légèrement en rogne, fait massacrer tous les Romains du secteur, civil et militaire. Rome croit s'en tirer en envoyant une partie de la 10e légion pour mater les rebelles, mais sous-estime le problème. Le détachement tombe dans une embuscade qui l'annihile presque entièrement. Ensuite, direction Londres ou Londinium, une petite ville en pleine croissance qui subit exactement le même sort que Colchester, avec quelques scènes de torture en plus pour faire bonne mesure. Quelques jours plus tard, 3e ville, 3e massacre dans une autre colonie romaine un peu au nord. En quelques semaines, la vendetta de Boadice fait entre 70 et 80 000 morts avant que Rome n'ait eu le temps de bouger le petit doigt. D'après Tacite, Néron en fut suffisamment marqué pour être à deux doigts de lâcher l'affaire et d'abandonner la province, comme Auguste l'avait déjà fait en Germanie. Mais tout change quand un général romain, Suetonius, regroupe une dizaine de milliers d'hommes et part, issus de plusieurs légions, une paille, face aux troupes de Boadice, 15 à 20 fois plus nombreuses, et pourtant, le sens tactique, l'organisation rigoureuse, le meilleur équipement de l'armée romaine font des ravages. Au soir de la bataille, Tacite prétend que les légions auraient perdu 400 hommes et les Icènes 80 000. C'est peut-être un poil marseillais dans l'esprit, mais au-delà des chiffres, la défaite est une évidence et Boadice ne peut que constater le désastre. Elle meurt quelques temps plus tard sans qu'on sache bien si elle s'est donné la mort ou si c'est une maladie quelconque qui a eu raison de la grande reine rousse. Cette fois, Britannia est à peu près matée, ou presque, reste la mémoire. Et si Boadice est à peu près inconnu de ce côté-ci de la Manche, c'est différent en Angleterre. Comme Vercingétorix ou Jeanne d'Arc en France, Boadicée devient l'un des symboles du patriotisme anglais au 19e, quand les écrivains se cherchent de grandes figures capables d'incarner l'Angleterre aux yeux du grand public. On la retrouve même ici ou là dans la pop culture, plus ou moins déguisée, comme dans l'univers de Conan le Barbare, où le personnage de Sonia la Rouge, une guerrière et aventurière barbare farouchement indépendante, lui doit beaucoup. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.